Salut, c'est Julien et du côté de Tours, pour Radio Campus Tours, je me suis rendu avec notre stagiaire Maxime au Grand Théâtre de Tours. Nous y étions mercredi dernier au moment du rassemblement quotidien de 14h qui a pour but de faire passer leurs revendications à la population. Et dans ce rassemblement de soutien, nous avons pu rencontrer Aurel qui occupe le théâtre depuis quelques jours déjà.
Alors moi là, ça fait 3 jours que je suis ici et 2 nuits que j'occupe le théâtre avec 20 personnes qui tournent chaque jour, ou chaque nuit plutôt.
Donc vous venez du monde culturel, j'imagine, c'est ça?
Ouais, tout à fait. Je suis régisseur pour spectacle vivant et pour certaines salles.
Donc là, ça fait à peu près 1 an que la situation est très compliquée pour vous. Vous en avez marre? C'est un petit peu un message que vous voulez envoyer
Alors oui, c'est ça. Et c'est surtout qu'il y a une incompréhension. C'est-à-dire que ça fait 1 an que tout est fermé, bien évidemment, avec une réouverture qui a eu lieu à partir du printemps jusqu'en octobre dernier. Mais tout n'a pas pu rouvrir parce que c'était extrêmement compliqué. Et c'est surtout que ce qu'on ne comprend pas depuis décembre, toutes les structures, tous les lieux ont fait des protocoles très stricts, extrêmement stricts. Il y en a certains qui font plus de 60 pages. Et qu'il y a beaucoup d'établissements où on peut rentrer, faire ce qu'on veut, et où les protocoles n'existent quasiment pas. Et donc ce qui nous exaspère au plus haut point, c'est qu'on peut, je pense qu'on y arriverait, car on ne sommes pas complètement stupides, on est conscient de ce qui se passe en ce moment, et que nous avons la capacité de mettre en œuvre, de rouvrir tous les lieux culturels. Et donc c'est ça qui nous exaspère énormément.
Vous pensez que c'est une décision plus de bon sens ou plutôt de politique politicienne?
Alors, je ne sais pas. De mon humble avis, je pense que ce n'est pas que sanitaire. Il y a une volonté politique derrière. Pourquoi le marchand peut ouvrir et pas la culture? Et non, on en revient à qu'est-ce qui est essentiel et pas essentiel. Et c'est aussi une de revendication. On pense que l'essentiel, comment on définit l'essentiel? Et à travers ça, il y a d'autres propos qui viennent à ces revendications. Car il y a le Covid, effectivement, mais ça fait bien longtemps qu'il y a des problèmes. Là, les étudiants, par exemple, ils sont au CDN de Tours. Eux aussi, il y a beaucoup de choses, mais on revendique autre chose, au-delà de l'ouverture des salles de théâtre. Alors, si on rouvre les salles de théâtre, ça va se rouvrir, mais il ne faut pas lâcher derrière. Ce n'est pas parce que les salles vont se rouvrir que tout va bien se passer. Il y a d'autres choses à mettre en œuvre derrière. Ce n'est pas simplement la réouverture des salles, mais c'est déjà un début.
Pourquoi occuper un théâtre, finalement? Pourquoi cette action-là, en particulier?
Alors, le théâtre, en fait, ici, c'est un théâtre municipal. C'est-à-dire qu'il appartient à la ville. Qui dit appartient à la ville, appartient aux gens. Et donc, il appartient à tout le monde. Et donc, le milieu de la culture, c'est aussi du privé, mais c'est aussi à tout le monde. Et donc, on se réapproprie un bien pour dire qu'on peut faire des choses dedans, dans une cohérence et une cohésion sociale entre nous et avec toute la société.
Et ça s'est fait comment ici, l'occupation de ce théâtre? C'était en accord avec la direction du théâtre?
Alors, j'étais pas là, hélas. Donc, je ne peux que relater ce que j'ai entendu, parce que moi, je n'étais pas présent. Mais en tout cas, ça s'est fait avec l'accord du théâtre. Il y a eu une AG vendredi dernier. À l'issue de cette AG, a été décrétée l'occupation du théâtre. Sur ce, le directeur du théâtre a bien voulu nous accueillir dans son théâtre. Et donc, depuis ce jour, on occupe le théâtre.
Et pour combien de temps vous...
Alors c'est indéterminé, on verra, on ne sait pas. Comme là il y a plus de 60 théâtres occupés en France à l'heure actuelle, enfin peut-être un peu plus là au moment où je vous parle, je ne sais pas. Et donc on ne sait pas, on ne sait pas encore. Au moins qu'on puisse nous entendre, qu'il y ait conversation, communication, qu'il y ait échange, parce que pour l'instant on a l'impression qu'il n'y en a pas en tout cas.
Est-ce que vous avez espoir en une réouverture prochaine des théâtres? Est-ce que vous avez aussi d'autres revendications, notamment sur l'année blanche? Quelle est votre vision là-dessus? Est-ce que vous pensez que vous allez obtenir gain de cause pour certaines choses, rapidement ou pas? Comment vous voyez les choses l'avenir?
Alors, j'en sais rien. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que si on ne fait rien, il ne se passera rien. Donc, je ne peux pas dire une temporalité par rapport à ça. Donc, on espère que ça va se faire et on espère que ça se fera avant... l'été, parce que pour les théâtres par exemple ça s'arrête en juin, hein. Alors après il pourra peut-être y avoir des ouvertures exceptionnelles en été, mais ça je ne peux pas me prononcer là-dessus, et donc on ne sait pas là au niveau de la temporalité. Et par rapport aux autres revendications, effectivement il y a l'année blanche qui est très important, parce que beaucoup d'intermittents ne pourront pas subvenir à toutes leurs heures. Donc il y a ce prolongement d'année blanche. Et également, même s'ils font leurs heures, il y aura beaucoup de précarité, car ils perdront beaucoup d'argent. Une autre revendication, c'est qui se greffe là-dessus, c'est l'abrogation de l'assurance chômage. On trouve, parce qu'il y a la culture, effectivement, mais il y a les précaires, quand nous sommes aussi précaires. Et cette abrogation, enfin, c'est complètement hallucinant. Les étudiants également, qui eux sont dans une détresse énorme. Et également un fonds de soutien aux primo-entrants. Aux primo-entrants et ceux qui vont perdre leurs droits. C'est-à-dire qu'il y en a, parce que l'année blanche, bon, bah, ça peut aider ceux qui ont perdu leurs droits ou ceux qui vont vraiment voir leur taux chuter et qu'ils ne pourront pas subvenir parce qu'on a tous des charges, hein, bien évidemment. Et donc pour les primo-entrants, c'est-à-dire qu'eux, ils ne sont pas intermittents. Donc s'il y a une année blanche, bon, bah, c'est bien sympa, mais pour ceux qui ne sont pas intermittents, il n'y aura rien. Donc les soutenir et les aider pour ça, pour qu'ils puissent commencer à travailler, parce que je pense qu'ils veulent vraiment travailler.
Nous avons aussi interrogé d'autres personnes venues apporter leur soutien devant le Grand Théâtre à 14h mercredi dernier.
Moi, je suis venue dormir la deuxième nuit. Et puis là, je suis venue effectivement écouter en soutien. Et on discutait ensemble de savoir quand est-ce qu'on y retourne ou pas, parce que c'est une histoire d'organisation aussi et puis de perspective au long terme, même si j'espère qu'on sera entendu avant que ça s'éternise trop, quoi.
Et justement, des perspectives, vous en avez un petit peu ou pas ?
Là, les lieux de... Là, ça a été dit plusieurs fois, en réunion. Hein. C'était pas des AG parce qu'il n'y avait pas tout le monde, mais il y a des réunions tous les jours. Clairement, c'est pas la revendication. Ceux qui sont là pour la réouverture des lieux se trompent un peu de combat, quoi.
Disons que on est à peu près sûr qu'on finira par l'avoir, l'ouverture des lieux culturels, mais qu'effectivement, le ras-le-bol pour les professionnels de la culture, il est concret, il se traduit par des mesures très claires de prolongation de l'année blanche. Mais en fait, ce mouvement qui est en train de se faire, il va aussi de pair avec les lieux de culture, ils sont ouverts à tous. Donc tous ceux qui ont souffert finalement des privations de liberté ou des mesures restrictives dans leur profession sont les bienvenus et c'est un peu le souhait de l'ouverture à plus de débats que seulement l'ouverture des lieux. L'année blanche est vraiment effectivement en priorité s'opposer à la réforme chômage qui est dans les tuyaux.
Du coup, vous personnellement, vous faites partie du milieu de la culture pour avoir aussi dormi dans le théâtre ou pas du tout ou...
Oui, moi je suis comédienne et intermittente du spectacle, donc effectivement je suis de près, j'ai l'impression de retourner dans ma maison en allant dans un théâtre parce que ça fait un an qu'ils sont fermés. Mais voilà, il n'y a pas que ça dans les gens qui occupent, il y a des professions aussi parallèles ou les métiers de la culture qui ne sont pas associés à l'intermittence. Il y a une convergence des intermittences, c'est-à-dire que les intermittents du spectacle ne concernent pas tous les acteurs de la culture. Or, la culture est en souffrance puisque effectivement ça fait un an qu'on est à l'arrêt ou presque, quasi. Mais voilà, il y a aussi beaucoup d'autres corps de métier et d'autres prises de parole qui sont les bienvenues et ça se veut ouvert, quoi.
Toutes ces personnes occupent le théâtre et se rassemblent donc pour apporter leur soutien au monde de la culture, mais c'est un monde qui est très large et qui englobe aussi les guides conférenciers. Nous avons d'ailleurs pu rencontrer une d'entre elles, qui nous a expliqué pourquoi occuper un théâtre et quel était le sens de tout cela.
Alors le milieu culturel, il est très large. C'est pas uniquement le milieu du spectacle, c'est un milieu qui fait travailler énormément de gens. Donc à la fois la scène, à la fois la rue, les espaces institutionnels ou non. Et moi je suis du milieu de la culture, je dépends du ministère de la culture, mais je dépends aussi du tourisme. Mais le ministère du tourisme n'existe plus, donc je suis du milieu culturel.
Et donc toi au quotidien, tu travailles donc pas forcément dans des théâtres, mais ça change pas que cette situation actuelle t'impacte en tant que personne qui travaille dans la culture.
Alors moi je suis guide conférencière. Ouais. Donc l'ouverture ou non des sites touristiques et des sites culturels, ça ne va pas changer grand-chose. Nous, l'ouverture des sites, ça ne nous a pas permis de retrouver du travail parce qu'on est des intermittents de l'emploi. Donc la culture, ça va au-delà des intermittents du spectacle. On a des intermittents de l'emploi dans absolument tous les domaines qui sont liés de près ou de loin à la culture. Parce que si on ouvre un cinéma, ça veut dire de la restauration, ça veut dire de l'hôtellerie, ça veut dire faire des expositions. Ça fait travailler tous ces gens-là qui font partie aussi de l'entretien et de la vie du lieu et de la vie du quartier. Et moi qui étais guide conférencière sans bénéficier du régime de l'intermittence. J'avais un rythme intermittent, mais en étant au régime général, comme beaucoup de gens dans la culture, la restauration et l'hôtellerie. Parce que le théâtre, c'est l'agora, Le théâtre, c'est la rencontre à la fois de l'institutionnel, à la fois du public, à la fois des producteurs de culture, les passeurs de culture, les passeurs de savoir. C'est un espace qui doit à nouveau être accessible au public, et c'est là où les gens se rencontrent, d'où l'intérêt d'avoir des rencontres avec le public aussi à l'extérieur. Nous, on occupe à l'intérieur, on réfléchit à des actions concrètes, et on rencontre le public à l'extérieur, les gens qui veulent participer à l'action, nous faire part de leurs idées et aussi transmettre les messages et les revendications.
On a rencontré plein de gens qui viennent, qui travaillent dans le milieu de la culture. Est-ce que vous vous sentez aussi soutenu par les personnes qui justement ne sont pas dans le milieu de la culture ?
Il y a un soutien, bien sûr, avec l'industrie. On a des usines de métallurgie en ce moment qui sont occupées. Et dans la réflexion de notre mouvement d'occupation et de valorisation de tous les métiers du milieu culturel, il y a aussi une valorisation du patrimoine humain. Et le patrimoine humain, il y en a absolument partout. Le patrimoine humain, ça va au-delà du patrimoine muséal, du patrimoine culturel. C'est qu'on est des gens, on apporte une valeur et notre valeur, elle doit être reconnue à juste titre.
Pour l'instant, est-ce que vous avez eu le sentiment peut-être d'avoir ne serait-ce qu'été entendu ou pas du tout pour le peu que vous avez... la semaine que vous avez occupé ce théâtre et toutes les autres actions que vous faites?
C'est bien d'être écouté, c'est bien d'être entendu. On voit la ministre de la Culture qui est venue avec une délégation à l'Odéon, mais qui garde ses œillères sur la fameuse année blanche et les intermittents du spectacle. Et en fait, ça va beaucoup plus loin que ça. On est sur une occupation pour des réformes au niveau social et au niveau patronal. Et ça va beaucoup plus loin que ça.
C'est François Bonneau, qui est président de la région Centre-Val de Loire, qui est venu ce matin. Avec son, avec son adjoint pour prendre en considération nos revendications et éventuellement les transmettre à Madame Bachelot quand ils se rencontreront.
Vous l'avez donc compris, à Tours, il y a le Grand Théâtre qui est occupé depuis plusieurs semaines maintenant, mais une autre salle de spectacle de la ville est elle aussi occupée. Et cette autre salle, c'est le Théâtre Olympia, le Centre Dramatique National de Tours, le CDNT, qui est occupé, lui, par des étudiants, des jeunes qui se mobilisent pour cette cause et pour un métier qu'ils vont bientôt exercer.
Donc, déjà, est-ce que vous faites partie du milieu de la culture ? Quel est votre rôle ici ?
Alors, moi, je suis au conservatoire en troisième année, conservatoire de théâtre, et en master 1, culture et médiation des arts du spectacle. Il faut savoir qu'ici, le mouvement, il est principalement étudiant et il est initié surtout par les élèves du conservatoire de théâtre et les élèves du master culture et médiation des arts du spectacle. Mais on est rejoint aussi par des élèves qui sont en fac de musicologie, des élèves qui font de la danse, du cinéma. Il n'y a pas que des étudiants, mais le mouvement tend à s'agrandir de toute manière. Pour l'instant, une petite quarantaine, mais ça va augmenter après.
D'accord, donc vous êtes étudiant et vous faites aussi partie donc, du milieu de la culture. Mmh. Est-ce que quel est votre sentiment justement sur la situation actuelle ? Est-ce que ça vous inquiète énormément ? Quel sens vous donnez donc à cette occupation ?
C'est sûr que pour l'instant c'est assez compliqué juste simplement de continuer ses études sur des bases psychologiques, saines, au niveau des moyens, c'est très compliqué aussi. Ça fait partie de nos revendications et on a besoin de pouvoir se projeter aussi nous pour pouvoir continuer à étudier et aussi d'avoir du travail en sortant de tout ça. Donc c'est pour ça qu'on est là.
D'accord. Et qui a été à l'initiative de cette occupation ? Comment ça s'est fait, si je puis dire ?
À la base, je fais partie de l'initiative. On est 3-4 étudiants du conservatoire à s'être dit que ça serait bien de s'engager et de suivre le mouvement national, en fait. Parce qu'on a d'autres copains qui sont dans des écoles nationales à Strasbourg, à Paris, qui se sont engagés. Et de là, on a contacté M. Jacques Vincé, donc le directeur du Théâtre Olympia. Et on est allé aux AG du Grand Théâtre. Au fur et à mesure, on s'est dit qu'on allait monter un mouvement. Et vu qu'on a été bien reçus de part et d'autre, on a pu initier tout ça.
D'accord. Et quelles sont donc vos revendications, finalement, ce pourquoi vous êtes là ?
Alors, nos revendications, évidemment, on soutient et on est tout à fait d'accord avec les revendications, par exemple, du CIP 37, mais qui ne nous concernent pas encore. Donc, souvent, c'est des revendications par rapport à la réforme chômage, par exemple, à l'année blanche. Et tout ça, on n'est pas encore concernés. Donc on les soutient évidemment, mais on en a d'autres. Donc nous, on est concernés surtout par un accès aux cours qui a été extrêmement limité cette année pour les premières et deuxième années en école de théâtre, donc au conservatoire de théâtre, mais je crois que c'est le cas aussi en musicologie et en danse au conservatoire, où les cycles 1 et 2 sont en cours en visio, donc ce qui est horrible pour faire du théâtre ou de la musique, parce que c'est super compliqué juste psychologiquement d'être présent. Ensuite, donc on aimerait une réouverture des cours pour les cycles 1 et cycle 2, parce qu'ils sont concernés exactement de la même manière par les conditions sanitaires, donc on ne comprend pas qu'ils n'aient pas cet accès-là. On aimerait aussi peut-être questionner le tarif des conservatoires par rapport au nombre d'heures par cycle, parce que c'est le même tarif pour toutes les années d'études, alors que par exemple en cycle 3 on a 12 heures de cours, en cycle 1 on a 5 heures. Donc voilà, on a aussi envie de déplorer un manque de moyens considérable dans le conservatoire, mais c'est aussi le cas à la fac, c'est le cas dans plein de milieux étudiants artistiques où on a très peu de salles de répétition, on se bat pour avoir des salles de répétition qui ont des trous au mur, qui sont dans de mauvais états, donc on a envie de se battre pour ça. Et ensuite, on a des revendications qui concernent davantage la sortie d'études, où il y a quand même une précarité que tout le monde connaît, où en sortie d'études, on aimerait avoir un plan d'accompagnement à l'emploi en sortie des études, qu'elles soient artistiques, techniques ou administratives. On aimerait peut-être un plan aussi pour tous les étudiants qui sont sortis de cours au moment où le Covid est arrivé et qui étaient en proie à faire leur intermittence et qui se retrouvent aujourd'hui sans travail, sans chômage et dans une précarité incroyable. Et évidemment, la réouverture des théâtres et des salles de concert et de cinéma que nous chérissons tant, et la revalorisation simplement de notre niveau d'études.
D'accord. Voilà. Et donc, parmi toutes ces revendications, est-ce que pour l'instant, vous avez eu le sentiment d'être pris en compte par l'action que vous menez?
Alors, pour l'instant, notre action à Tours, au Théâtre Olympia, elle est toute récente. Elle a commencé hier, réellement, même si au Grand Théâtre, ça fait un petit moment que ça dure, une petite semaine. Alors, pour l'instant, non. Et même quand on voit comment réagit Rosine Bachelot ou notre président, on se rend bien compte qu'on est très, très peu entendu.
Sur ta liste, le volet réouverture des lieux de culture était à la fin. C'est volontaire ou pas?
Alors non, pas du tout. C'est que pour moi, c'est vraiment la revendication qui fédère tout le monde en France, dans toutes les occupations. La réouverture des salles, c'est la première revendication. C'est pour ça que je ne l'ai pas nommée en premier, mais elle va de soi, je pense. Mais il faut... ce qui est important, je pense, à retenir dans tous ces mouvements d'occupation, c'est qu'on ne se bat pas pour retrouver ce qu'on avait avant, donc des salles ouvertes, mais pour obtenir plus, parce que ça fait déjà bien longtemps que la culture va mal.
Et combien de temps est-ce que vous comptez tenir ou rester ici?
Ça, je pense qu'il n'y a pas de réponse à cette question. On va voir comment on est écouté, est-ce qu'on est entendu. Et nous, on reste motivés, on est de plus en plus, ça ne va pas s'arrêter tout de suite.
Un monde de la culture sinistré donc, mais plus motivé que jamais, pour pouvoir obtenir gain de cause et continuer à exercer tous ces métiers essentiels de la culture.